On revient maintenant sur la question du piratage sur Internet et des législations qui visent à punir ceux qui font circuler des œuvres sans les payer ou les faire payer, en compagnie de Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net, Alain.
Oui, nous le recevions il y a quelques jours en direct pour parler de d'ACTA, hein, cet accord international qui est en négociation contre les contrefaçons. Et dans cet accord, il y a un chapitre sur Internet et de nombreuses organisations dénoncent la discrétion dans laquelle se déroulent ces négociations. Parmi ces organisations, donc la Quadrature du Net, qui veut défendre les droits et les libertés des citoyens sur Internet, et on trouve sur le site de la Quadrature du Net un article intitulé « Partager n'est pas volé, chronique d'un mensonge historique ». Alors c'est de ça qu'on va parler. J'ai demandé à Jérémy Zimmermann de nous dire en quoi, selon lui, il y a un mensonge historique.
Eh bien, cela fait une quinzaine d'années maintenant que Internet et les technologies numériques commencent à se développer dans tous les échelons de notre société. Internet est devenu le plus formidable outil pour la diffusion de la connaissance humaine depuis la presse imprimée de Gutenberg. Personne ne nie ça aujourd'hui. Et Internet est devenu véritablement fondamental pour notre vie de tous les jours et pour évidemment le futur de nos sociétés. Et donc ça fait une quinzaine d'années que des industries, des petites industries, mais qui font beaucoup de bruit, l'industrie du disque, l'industrie du film, les industries du divertissement, se rendent compte qu'Internet remet profondément en cause leur modèle économique. Lesquels modèles économiques étaient jusqu'à présent basés sur 1. Le contrôle de la copie, donc le monopole sur la réalisation des copies, et 2. Le contrôle sur les canaux de distribution de ces copies. Donc on pourrait détailler, c'était la radio, parfois, souvent, le contrôle des playlists via les DJ, dans les magasins, le contrôle des rayons, des têtes de gondole, à la télé, le contrôle des clips, se débrouiller pour placer ses stars, etc., etc. Donc Internet est venu profondément remettre en cause ce modèle, parce que le coût de la copie et le coût de la distribution de copies tend invariablement vers zéro. Donc chacun a la possibilité de devenir techniquement son propre producteur, son propre éditeur, son propre distributeur, son propre média en quelque sorte. Et donc cette logique s'oppose frontalement à la logique qui était celle des industries du divertissement jusqu'à présent. Donc on assiste depuis une quinzaine d'années, en réalité depuis Napster, depuis le premier logiciel peer-to-peer qui a permis véritablement de connecter tous les individus qui étaient en train de numériser des œuvres dans leur coin et qui voulaient se les distribuer entre eux, sans passer par les industriels du divertissement. Donc depuis Napster en 97, ces industries mènent littéralement une guerre contre leurs clients, une guerre contre le public. Et alors que le droit d'auteur a toujours été un droit d'équilibre entre les auteurs, les producteurs et le public, ils sont en train d'influencer les différents pouvoirs politiques et influencer le terrain législatif à de nombreux échelons pour tourner le droit d'auteur contre le public, ce qui est quelque chose de jamais vu. Et donc cette espèce de guerre contre le partage, cette guerre contre le public, part d'un mensonge historique qui est dire que partager, c'est voler. Alors, ça veut dire que, selon eux, lorsque l'on va réaliser une copie numérique d'un fichier, donc une copie d'une série de 0 et de 1, ce que l'on pourrait faire avec un papier, un crayon, mais ça prendrait un certain temps, lorsque l'on va réaliser ça à l'aide d'un ordinateur, eh bien pour eux, ça va être l'équivalent d'entrer dans un magasin, de prendre un CD sur un rayon et de repartir avec dans sa poche sans payer. Pourquoi ça, c'est un mensonge historique, tant du point de vue économique, logique que juridique? Du point de vue juridique, dans le code pénal français, le vol est décrit comme la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Donc un vol, c'est une soustraction. Si sur un étal, il y a 10 pommes, j'en vole une, il en reste 9. Donc, mécaniquement, ça fait que le marchand en vendra forcément une de moins. Alors que quand il y a un fichier, si je le copie 1 million de fois, il y aura 1 million et un fichier, et la source originale n'aura pas disparu.
Il n'y a pas de soustraction.
Donc, il n'y a pas de soustraction, au contraire, on en fait même une multiplication. Donc dire que partager, c'est voler, ça revient à dire que la multiplication, c'est la soustraction. Ce qui fait un petit peu penser à « La guerre, c'est la paix » dans 1984 de George Orwell. Et ce prédicat de départ, dire que partager, c'est voler, est la base de tous les arguments des industries du divertissement quand elles font la guerre contre le partage, contre le peer-to-peer, contre n'importe quelle forme de partage des œuvres en ligne. Et cela leur sert à affirmer que chaque fois que l'on va télécharger un morceau, chaque fois que l'on va partager une œuvre, cela revient mécaniquement à une vente perdue. Vu que partager, c'est voler, télécharger, c'est une vente perdue. Donc un gamin de 12 ans qui aurait téléchargé 5000 films, C'est comme s'il avait acheté 5000 DVD, évidemment.
Mais quand il fait ça, quand il fait une copie d'un DVD, il ne va pas payer l'auteur ou le producteur de ce DVD.
Non, il ne va pas le payer, mais peut-être qu'il ira au cinéma, peut-être qu'il va en faire la promotion autour de lui et que 10 personnes autour de lui iront au cinéma ou achèteront le DVD. Peut-être qu'il va acheter les produits dérivés, peut-être qu'il deviendra un grand cinéphile et qu'il produira des œuvres dans le futur. Peut-être qu'il va remixer ce DVD pour faire sa propre œuvre qui fera la promotion d'un média indépendant ou de quelque bonne cause que ce soit. Non, il va juste participer à l'économie culturelle d'une façon ou d'une autre. Et c'est aujourd'hui une douzaine d'études que l'on a recensées sur laquadrature.net/wiki/document au pluriel avec un D majuscule. Une douzaine d'études qui, commissionnées par le ministère de l'Industrie du Canada, le gouvernement néerlandais, la Business School of Norway, l'Institut Ipsos allemand, etc., etc., qui démontrent qu'à une échelle microéconomique, donc si on se contente de regarder les ventes de disques et de DVD, les gens qui partagent le plus sont très souvent ceux qui achètent le plus, ou qu'à la rigueur, le partage ait un impact nul sur les ventes. Voilà, c'est les deux types d'études qu'on a recensées, et qui, à l'échelle macroéconomique, donc en regardant toute l'économie de la culture et toute l'économie en général, le partage d'œuvres serait bénéfique à l'économie de la culture et à l'économie en général.
Alors ça, c'est
la seule chose à laquelle ça pourrait nuire, c'est le contrôle qu'avaient les majors du divertissement sur la distribution, et cette capacité qu'ils avaient à imposer des blockbusters, des stars, à grands coups de marketing et d'homogénéisation de la production, plutôt que la recherche, le talent et la véritable création artistique.
Ce que vous dites, on pourrait le dire autrement, on confond le droit d'auteur avec les droits commerciaux des distributeurs, et ça, il n'y a aucune raison de le protéger. Cela dit, Jérémy Zimmermann, il reste quand même un tout petit peu un problème par rapport au droit d'auteur. Si on peut partager librement, même si ceux qui partagent consomment tout autant des choses qu'ils achètent, ce ne sont pas forcément les mêmes. Comment est-ce qu'on va assurer la rémunération des créateurs si on partage gratuitement?
C'est une question évidemment absolument fondamentale. Alors plutôt que de rémunération, parce que rémunération implique un quiproquo, donc un échange, et je pense qu'on est sorti de cette logique d'échange où chaque copie devrait donner lieu à donc une rémunération. Plutôt que de rémunération, je préfère parler de financement de la création. Parce que ce qui est important, c'est que les œuvres soient produites. Et pas forcément que chaque copie donne lieu à un paiement. Une œuvre a un coût pour être produite, et après qu'il y ait une personne qui l'apprécie ou un million, le coût fixe est le même. Donc pour ça, il y a déjà un certain nombre de solutions qui existent et qui sont basées sur la mutualisation du financement de la création. Donc il y a les sociétés de gestion collective, dont les revenus sont d'ailleurs en augmentation constante depuis les 10 dernières années, en même temps que les œuvres se partagent sur Internet. Il y a également la rémunération pour copie privée, sur les supports vierges, qui elle aussi augmente et a, je crois, doublé au cours de ces 10 dernières années en accompagnant la révolution numérique. Donc chaque fois que l'on va acheter un DVD vierge, une clé USB, un ordinateur, un disque dur, etc., il y a une partie de cet argent qui ira pour être répartie de façon plus ou moins opaque, et on pourrait reparler de ça. Et évidemment, il faudrait ouvrir ces clés de répartition, etc., mais c'est un autre débat. Donc qui est réparti pour les auteurs et pour les artistes. Et donc nous, de la même façon, on prône une solution qui est la contribution créative, qui est décrite par Philippe Aigrin, qui est également cofondateur de la Quadrature du Net dans son ouvrage qui s'appelle Internet et création, que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter aux éditions Libro Veritas. Et donc dans cette contribution créative, on part du principe que chaque utilisateur d'une connexion Internet au débit paierait par mois un montant entre 3 et 10 euros, qui serait réparti selon des statistiques parfaitement transparentes et anonymes, réalisées par des tiers indépendants, entre eux, les auteurs des œuvres les plus lues, les plus vues, les plus écoutées. Et Philippe décrit dans son livre des mécanismes, des procédés statistiques et économiques, avec des prévisions, avec des chiffres, le tout basé sur des logiciels libres dont le code source est disponible, qui n'ont jamais été attaqués par les industries, qui attaquent le fond idéologique, qui mettent en avant d'éventuels problèmes juridiques, mais qui jamais ne contestent le fond, à savoir que, en France, pour les 17 millions d'accès au débit, à hauteur de 5 euros par mois, cela représenterait 1 milliard d'euros à répartir, 1 milliard supplémentaire par rapport aux sources de revenus actuelles, qui sont celles des artistes et des auteurs. Donc une somme considérable qui suffirait de se baisser pour ramasser.
Donc c'est un peu comme si on entrait sur un marché et que là on pourrait se servir gratuitement de tous les fruits et légumes parce qu'ils sont reproductibles à volonté, hein, mais on paierait juste un droit d'entrée dans le marché.
Alors effectivement, d'un côté, cette contribution créative s'associe nécessairement de la reconnaissance de nouveaux droits au public, donc du droit au partage entre individus sans but commercial, sans ce qu'on essaye de mettre un flic chez vous, donc sans ces crétineries d'Adopi qui sont vouées à l'échec, et autres d'Atsi, et bon, on va pas refaire à l'envers l'historique de la guerre contre le partage. Maintenant, si je puis me permettre, toute analogie avec le monde physique est vouée à l'échec, parce que à ce moment-là, il faudrait imaginer un étal du marché où si tout le monde se servait, il resterait exactement la même quantité de marchandises.
Oui, c'est ça. Les fruits et légumes seraient reproductibles au fur et à mesure qu'on en prend un. Ben, il y en a un autre qui réapparaît magiquement.
Voilà. Et donc, poser la question à l'envers, c'est si on inventait une télécommande qui permettait en appuyant sur un bouton de multiplier les oranges ou les pains, est-ce qu'il faudrait interdire de se servir de cette télécommande ou est-ce qu'il faudrait accompagner la filiale de la boulangerie pour qu'elle puisse trouver de façon créative d'adapter ses modèles économiques et d'accompagner cette révolution.
Donc c'est une révolution technologique qui devrait déboucher sur une révolution d'un mode de fonctionnement économique.
Cette révolution est déjà à l'œuvre. Les industriels du divertissement qui nient cette révolution, qui essayent d'emmener avec eux les indépendants, qui sont très souvent, au contraire, dépendants des majors pour la distribution, ils essayent de faire croire que cette révolution va nuire aux auteurs, à la création, aux artistes, alors que c'est tout l'inverse. Les gens qui, comme moi, sont dans ces nouvelles pratiques culturelles depuis des années, s'aperçoivent que c'est littéralement des milliers d'artistes qui fleurissent un peu partout, que c'est des milliers d'initiatives parfaitement indépendantes de gens qui vont se distribuer eux-mêmes et qui vont rencontrer un public grâce à Internet et qui vont pouvoir s'émanciper des contraintes qui étaient auparavant celles de la distribution, que c'est littéralement une nouvelle économie de la culture qui est déjà aujourd'hui à l'œuvre. J'ai des dizaines d'exemples en tête d'artistes qui ont fait quelque chose, qui l'ont posé sur Internet, qui ont rencontré un public et qui ont dit « bon, ben, si c'est ça, achetez-moi le DVD numéroté ou achetez tel produit dérivé ou investissez dans le prochain film ou le prochain disque ou venez à nos concerts à telle date, etc. » qui depuis ce jour juste existent.
Donc vous pensez qu'ils vivent mieux que s'ils devaient signer un contrat avec un grand distributeur ?
Ah ben, quand vous regardez les contrats en question, le syndicat des éditeurs de phonogrammes nous affirme, nous jure leur grand Dieu, que c'est 10% qui est reversé aux auteurs et aux artistes. Donc quand ils disent 10, il faut imaginer 5. C'est des contrats qui vous lient. Alors aux États-Unis, je crois que le contrat moyen vaut pour 7 albums. Donc pour 7 albums, vous êtes enchaîné à un producteur sans pouvoir en partir. C'est des contrats qui sont proches de l'exploitation. Et parler aux artistes, pas les 50 stars qu'on voit tout le temps à la télé et qui ont des revenus tout à fait corrects de leur œuvre, mais parler à tous les autres et demander-leur ce qu'ils pensent de leur contrat. Et vous verrez par vous-même.
Et donc, dans la quadrature du net, il y a des artistes qui soutiennent ce partage librement de leurs œuvres.
Alors, il y en a de plus en plus, mais ça a été très difficile dans le contexte de l'Adopi en France, qui était une bataille législative et politique à couteau tiré, dans laquelle il y avait une pression extrêmement forte, notamment de la SACEM, Société de Gestion Collective, qui faisait une pression incroyable sur ces sociétaires. Il y a eu une lettre ouverte, par exemple, de 21 cinéastes, dont Catherine Deneuve, Vittoria Abril, Chiara Mastroianni, qui appelaient à la fin de cette guerre contre le partage et qui disaient que voilà, le peer-to-peer était quelque chose de fantastique pour faire vivre le cinéma, et surtout le petit cinéma, le cinéma inconnu, et pour remettre de la passion dans la cinéphilie. Il y a un grand nombre de ceux qui ont signé cette lettre ouverte qui se sont retrouvés avec un contrôle fiscal dans les semaines qui ont suivi. Et ceux qui n'ont pas eu de contrôle fiscal ont eu des coups de fil de leurs collègues en leur disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu es complètement fou ! Tu veux nous trahir ! Arrête ça tout de suite !» etc., etc. Donc une pression très très forte pour les artistes, une espèce d'omerta. Mais je suis persuadé qu'à mesure que plus en plus de Radiohead, de Nine Inch Nails, où il y a eu Smashing Pumpkins, etc., à mesure que des artistes connus, renommés, vont d'un côté faire la démarche de donner leur œuvre au public et de démontrer que en donnant au public, on reçoit en retour. Et à mesure que des artistes inconnus, comme les gens qui ont fait Sita Sings the Blues, comme Fanfarlo, comme les labels Anzen Recordings, etc., qui ont explosé grâce à Internet, je pense que les artistes sont pas plus bêtes que ça et qu'au bout d'un moment, ils vont finir par comprendre les uns après les autres.
C'était Jérémy Zimmermann de La Quadrature du Net.